Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler à présent du rôle du Parlement. Quel est le rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie? Le pouvoir législatif joue un rôle central dans la consolidation de la démocratie, d'après les experts. Cependant, les relations entre le pouvoir exécutif et les parlementaires évoluent parfois en dents de scie. Dans la plupart des cas, le Parlement accuse le gouvernement de vouloir restreindre sa liberté. Et les décideurs, pour leur part, se plaignent de l'attitude des députés qui ont tendance à bloquer leurs actions. Quel est le rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie en RDC? Comment favoriser des relations harmonieuses entre les différentes institutions? Eh bien, c'est le sujet que nous abordons dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons recevoir tout à l'heure l'honorable Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel. Et nous recevrons également Monsieur Henri-Christian Longuenja, expert en éducation civique et secrétaire général du collectif 24. Nous avons en ligne l'honorable Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel. Honorable Jacques Joly, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service qui s'intéresse au rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie. Alors, sans plus tarder, dites-nous quelle est la mission ou le rôle du Parlement, justement, dans la consolidation de la démocratie.
Il faut d'abord, c'est fondé sur la Constitution qui, dans son architecture, plus précisément, au niveau du titre 3 consacré aux institutions, prévoit les principes de division du travail au niveau de l'État en trois fonctions. Il y a la fonction exécutive, il y a la fonction judiciaire, qu'on appelle aussi le pouvoir judiciaire, et la fonction législative, qu'on appelle le pouvoir législatif. Et entre ces trois pouvoirs, il y a un principe qui les structure, à savoir le principe de séparation des pouvoirs. Alors, à ce qui concerne ces principes de séparation des pouvoirs ou de spécialisation du pouvoir, l'article 100 de notre Constitution confie au pouvoir législatif qui est exercé par le Parlement, essentiellement deux missions principales, comme je dis, une mission subsidiaire. La mission principale, ou les missions principales, c'est élaborer le loi de la République et contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et les services publics. Et je parle d'une mission subsidiaire, c'est la mission de contrôle, mais surtout d'évaluation des politiques publiques, y compris en ce qui concerne les recommandations, résolutions des assemblées elles-mêmes, tout comme aussi des lois et autres textes adoptés par le Parlement dans la conduite de l'État. Voilà ce qu'on peut dire schématiquement de comme fonction ou de mission d'un Parlement.
Alors, vous avez dit premièrement, c'est élaborer les lois. Deuxièmement, assurer le contrôle du gouvernement et des entreprises publiques et puis faire l'évaluation des politiques publiques. Parlons d'abord de l'élaboration des lois. Comment ça se fait concrètement au niveau du Parlement?
Bon, il faut savoir que l'initiative en matière législative appartient à la fois au pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, présenté au Parlement de projets de loi, et en même temps, chaque député dispose d'un droit d'initiative législative en soumettant au processus ce qu'on appelle la proposition de loi. ce processus ou ce travail parlementaire commence par le dépôt au niveau du bureau, plus particulièrement auprès de la présidente, qui transmet cette proposition ou, pour les cas de parlementaires, au bureau d'études. Le bureau d'études donne ses avis, les députés en prennent compte. Ensuite, le texte est envoyé au gouvernement pour prise de connaissances et des avis, parce que si c'est un texte qui va exiger des ressources, c'est le gouvernement qui tient le cordon de la bourse. Et ensuite, après les avis du gouvernement, le texte revient. Ce texte va passer alors au niveau de la conférence des présidents, où on décidera de son inscription au calendrier des travaux parlementaires de chaque session. Et on a deux sessions ordinaires. La session du mars, qui commence le 15 mars, et ça va être le 15 juin. Et la session de septembre, qui commence le 15 septembre, et ça va être le 15 septembre. Après les travaux, lorsque le texte arrive à la plénière va envoyer ça en commission. Il faut dire qu'il y a des commissions qui sont en fait des structures techniques de travail des parlementaires. Le texte est discuté en commission et revient, n'est-ce pas, en plénière pour adoption. Si elle est adoptée, la proposition de loi va passer maintenant à faire la navette pour aller suivre la même procédure au niveau de la deuxième chambre. Ça peut être le Sénat, si c'est le Sénat qui est saisi en second lieu, ou l'Assemblée nationale, si c'est elle qui est saisie en premier lieu. Et si le texte est adopté en termes identiques, à ce moment-là, le texte sera envoyé chez le président pour sa promulgation. À moins que ça soit une loi organique, le président devra se référer à la Cour constitutionnelle pour recueillir son avis si le texte est conforme à la Constitution. Sinon, le chef de l'État dispose de 15 jours pour promulguer la loi. Et à partir de ce moment-là, la loi produit ses effets. Voilà un peu schématiquement le processus de production d'une loi dans notre pays.
Bien. Alors, est-ce que la population, disons la société civile, peut aussi faire des propositions des lois lorsque les gens remarquent qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans la société ou on voudrait voir certains changements? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour proposer des lois?
Mais, le pouvoir d'initier une loi sous forme de proposition ou sous forme de projet sont des pouvoirs qui appartiennent aux institutions. Mais nous ne sommes pas dans un système fermé, c'est-à-dire que l'article 27 de notre Constitution prévoit que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination. Voilà. Donc, la société civile peut impulser le processus de production d'une loi à travers une pétition, ou alors, je suis heureux de travailler, d'être en débat aujourd'hui avec M. Christian Longuedja, la société civile, à travers plusieurs structures thématiques, travaille en osmose avec les députés pour, n'est-ce pas, faire adouber des lois ou les accompagner dans une proposition de loi. Et c'est la pratique très souvent, parce qu'aujourd'hui, les institutions ne vivent pas en vase clos. Les décisions doivent être en symbiose ou en osmose avec toute la société, puis particulièrement la société civile, qui suit, n'est-ce pas, les aspirations du peuple de manière désintéressée au jour le jour.
Bien, quel est le rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie? Nous avons Henri-Christian Longuedja, qui est expert en éducation civique et secrétaire exécutif du collectif 24. Henri-Christian, bonjour.
Tous les auditeurs, bonjour à mon aîné, grand frère, papa.
Bien, Henri-Christian, nous venons d'échanger avec l'honorable Jacques Joly. D'après vous, quel est le rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie?
Bon, je pense que le rôle du Parlement, comme on a toujours dit, qui veut être le tam-tam de la démocratie, d'abord pour qu'il ait cette étiquette, il doit remplir au moins 5 points Notamment, on doit avoir un parlement représentatif. Deuxièmement, un parlement transparent. Et en troisième lieu, un parlement accessible. Et un parlement qui rende les comptes. Et enfin, un parlement efficace. Et un parlement représentatif, c'est-à-dire un parlement où les élus tiennent compte de la dimension socio-politique et que même au niveau du Parlement, ils ont mis tout un système où les hommes et les femmes, tout ça qui en compose, représentent soit les partis politiques, soit leurs regroupements. Et en plus de cela, il y a toute une organisation avec un système ouvert, démocratique et indépendant, et les droits de l'opposition politique est garanti pour qu'on puisse voir que même les initiatives que l'opposition est en train de prendre, lorsque ces initiatives vont vers l'intérêt du peuple et que la majorité ne puisse pas mutiler cette initiative tout simplement parce qu'on veut défendre la majorité. Mais lorsqu'on sait que l'opposition peut avoir raison. Donc, du coup, la liberté d'expression doit être garantie. Et en plus, là, les politiques et les procédures qui assurent l'égalité des chances, les horaires, les conditions de travail non discriminatoires sont vraiment rendues publiques. Et pour parler de la transparence, je pense que c'est là où nous voyons un Parlement ouvert. Un Parlement ouvert, bien sûr, notre Parlement, il y a des plénières qui sont ouverts au public, mais il y a aussi des informations préalables qu'ils doivent publier pour que la population tienne en compte. Et on veut débattre une question, on publie cela, la population est bien informée, la population fait son feedback. J'ai toujours dit, quand je vois les sites internet de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat, nulle part on a mis les forums où la population peut interagir avec les honorables députés. Et vous arrivez là, vous trouvez, nous sommes en train de chercher les répertoires des députés, mais c'est difficile de les avoir alors qu'on devrait les avoir dans les sites où vous trouvez tous les 500 députés avec leurs partis politiques, avec leurs numéros de contact. Et tout ça, ce sont les éléments qui marquent l'ouverture au niveau du Parlement. Et les législations se fondent sur les libertés d'expression et surtout la liberté d'information.
D'accord. Henri Christian, on va accueillir un auditeur, Ntamboué Kasele-Sele. Il est dans la ville de... Il nous appelle depuis Béni, au nord Kivu. Ntamboué, bonjour. Ntamboué Kasele-Sele, bonjour. Ntamboué, vous êtes là? Voilà, je crois que...
Je suis aligné, monsieur Ligali.
Bien, vous êtes à Béni au nord Kivu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie?
Oui, par rapport à cela, nous savons que le Parlement a un grand rôle à jouer. Si vous lisez l'article 100 de la Constitution qui stipule que le Parlement a la mission ou bien le rôle de voter les lois ainsi que de contrôler le gouvernement ainsi que les services et les entreprises publiques. Et lorsque le gouvernement ainsi que le Parlement ne s'entendent pas, j'espère que là nous allons rester dans la guerre politique. Maintenant, j'avais une question à poser. Pourquoi le Parlement et le gouvernement ne s'entendent pas alors que tout se cherche l'intérêt général?
Bien, merci. Honorable Jacques Joly, pourquoi le gouvernement et les parlements ne s'entendent pas? C'est comme récemment, il y a eu une crise entre le parlement et le gouvernement, entre le président de la République. Alors pourquoi, il se pose la question de savoir pourquoi, souvent il y a des guéguerres comme ça. Honorable Jacques Joly. Honorable Jacques Joly, vous êtes là? Allô? Bien, on va, Tati va certainement rappeler l'honorable Jacques Joly. Vous êtes là? On me fait signe que vous êtes là. Honorable Jacques Joly. Bien. Henri-Christian Longenja, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur qui vient d'appeler de Béni?
Oui, effectivement, si nous constatons les cas les plus récents où on sent que le Parlement, je ne dirais pas qu'il ne s'attendait pas avec le gouvernement. Objectivement, ce qui s'est passé ces derniers jours, ce n'est pas un conflit entre le Parlement ou soit l'Assemblée nationale et le gouvernement, mais c'est un conflit de désobéissance ou d'allégeance des autorités du Parlement avec le président de la République. Alors, et c'est là où nous insistons sur les critères d'un Parlement démocratique. Parce qu'un Parlement démocratique doit travailler par rapport à tous ces critères que je venais de citer, les cinq critères, et que lorsque on est là, on n'est pas là pour servir l'autorité morale, on est là pour servir la nation. Et qu'on est là aussi pour prendre des lois et que ces lois-là, que ça soit respecté. Mais lorsque on peut avoir un parlement où on ne respecte pas les consignes, on ne respecte pas ce que dit le président de la République, ça crée des conflits. Mais je pense bien que la jeunesse de tout ça, c'est parce que l'esprit démocratique n'y est pas. On a un parlement où si nous disons que c'est le tam-tam de la démocratie, mais malheureusement, ça ne remplit pas tous les critères d'un parlement démocratique et par conséquent, on veut servir les autorités morales qui imposent la volonté, voire même aux députés, et on arrive toujours à ce genre-là d'action ou à ce genre de conséquences.
Bien, on va accueillir Patrice Mouderoy depuis Bukavu. Bonjour. Patrice Mouderoy, vous êtes là? Bien, on va d'abord accueillir l'honorable Jacques Joly. Professeur, un auditeur a nous appelé des bénis tout à l'heure pour dire pourquoi il y a souvent des crises entre le gouvernement et le Parlement.
Bien, la politique ne veut pas dire l'absence de contradiction. Mais la politique, surtout dans un État démocratique, c'est la structuration de processus de gestion des contradictions. Et il peut y avoir de contradictions, il doit y en avoir, entre l'exécutif et le législatif. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut gérer ces crises-là suivant le rêve constitutionnel, qui fixe le règle du jeu et l'ensemble de lois de la République. Et on peut aller plus loin jusqu'à ce que si la crise devient insoluble, eh bien, le Parlement peut prendre l'initiative, si nous sommes dans un régime parlementaire, de pousser une motion de censure pour faire partir l'ensemble du gouvernement, ou alors de prendre une motion de défiance pour, n'est-ce pas, faire partir un ministre qui est responsable devant le Parlement. Tout comme l'exécutif, lorsque il sent que la confiance n'existe plus avec l'Assemblée, eh bien, le gouvernement, dans les conditions précisées par la Constitution de chaque pays, peut dissoudre, n'est-ce pas, le Parlement, et, n'est-ce pas, demander des élections anticipées. Mais, en principe, les deux institutions doivent travailler de concert. C'est ce que très souvent les disent par les textes, mais qui se fait ou qui se font dans la pratique. C'est-à-dire que les institutions, contrairement à ce qui a été écrit sur Montesquieu, ne sont pas là pour s'entrer déchirer. Mais, animées par l'intérêt général, les institutions doivent travailler de concert.
Bien. On va accueillir un auditeur, Patrice Mouderoy. Bonjour. Patrice Mouderoy, vous êtes là? Non, il y a beaucoup de bruit. Là où il est, il va certainement nous rappeler. Nous parlons aujourd'hui dans Capital Service du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie. Nous avons aligné l'honorable Jacques Joly, professeur des droits constitutionnels, et Henri-Christian Longenja, expert en éducation civique et secrétaire exécutif du collectif 24. Henri-Christian, alors dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faut pour que le Parlement puisse réellement jouer son rôle de consolidation de la démocratie?
Bon, je pense bien que pour que le Parlement puisse jouer réellement son rôle de consolidation de la démocratie, il est, quand bien même les honorables députés sont élus à travers leurs partis politiques, il est important qu'ils savent que c'est la population qui les a élus et qu'ils puissent prendre des lois qui favorisent cette ouverture, là, voire même à la population, parce qu'un Parlement qui n'est pas transparent, qui n'est pas accessible, un Parlement qui ne sait pas rendre compte, voire même à ses électeurs, c'est difficile.
Henri-Christian, certains électeurs disent que les parlementaires sont, certains sont déconnectés même de la population qui les a élus.
Effectivement, lorsque je parle même de l'accessibilité, de la transparence, voire même de la réduction des comptes, c'est justement ça, ce sont les critères pour qu'on dise que le Parlement est démocratique. C'est-à-dire que les parlementaires doivent rendre compte aux électeurs sur la manière dont ils s'acquittent de leur mandat et sur leur intégrité. Alors, lorsque, une fois qu'on a été élu et qu'on coupe le cordon ombilical avec sa population et on commence à servir son autorité morale, c'est difficile qu'on puisse parler vraiment du Parlement démocratique. Nous pensons que pour que le Parlement congolais puisse être appelé un Parlement vraiment démocratique, doit s'inscrire dans la logique du Parlement ouvert. Dans la logique du Parlement ouvert, où il y a même des législations qui permettent à ce qu'aujourd'hui la population ait demandé des comptes et qu'on leur donne. Aujourd'hui, il y a chaque honorable député dépose les rapports des vacances parlementaires. Est-ce que ces rapports sont accessibles au public et que nous, société civile, nous pouvons aller demander les rapports des vacances parlementaires et que l'on nous donne les annales même parlementaires? Est-ce que c'est disponible? Donc tout ça, ce sont des problèmes et que nous pensons que pour que notre Parlement soit réellement démocratique et qu'il serve pour la démocratie, il est important que les honorables députés reviennent de temps en temps vers la population et que les honorables députés puissent donner d'abord priorité à des lois qui donnent la souveraineté au peuple. Notamment, je prends par exemple la loi d'accès à l'information qui traîne depuis 2009 dans les halls du palais du peuple jusqu'à aujourd'hui. Il y a des lois sur les manifestations publiques. Donc il y a des lois purement démocratiques et qui permettent à ce que les citoyens puissent s'exprimer librement, les citoyens puissent contrôler l'action parlementaire, mais qu'est-ce que nous constatons? Ces lois-là ne sont pas prises en priorité. On voit plus d'autres lois avec des intérêts purement politiques qui protègent parfois les autorités morales et du coup, la population reste dans les oubliettes. Alors donc, il est important que les députés sachent qu'ils sont des élus du peuple et qu'ils ont des comptes à rendre avec le peuple et qu'ils ne doivent pas se fermer les portes. Et aujourd'hui, les numéros de communication des députés ne doivent pas être à rechercher. Et ça devrait être même dans les portails du Parlement et qu'on veut rencontrer, voire même madame, le président du Parlement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que ça soit facile parce qu'ils sont nos élus. Donc voilà, je pense que s'il y a pas mal de choses que nous puissions faire pour que notre Parlement puisse être dit vraiment démocratique, mais c'est aussi question d'esprit. Parce que même alors que nous critiquons, il y a des députés qui sont ouverts, qui travaillent, qui vont vers le peuple, notamment ils discutent avec la société civile et ils prennent vraiment la volonté de la société civile et les coulent en termes de loi. Vous avez posé la question à l'honorable, l'initiative législative. Bien sûr, ça vient du gouvernement tout comme du parlementaire, mais il y a aussi la société civile qui propose certains textes et qui sont endossés par les honorables députés et ces textes sont votés. Mais seulement que il est important qu'ils puissent voir vraiment des valeurs démocratiques et que les députés puissent accomplir leurs fonctions législatives, surtout les fonctions aussi de contrôle parlementaire, de manière à répondre aux besoins de toute la population.
Bien, nous avons en ligne Isaac Tchoni depuis le Lualaba, il est à Kolwezi. Bonjour Isaac.
Bonjour à la Radio Kapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie?
D'accord, par rapport au sujet du jour, c'est très important, messieurs les journalistes, et aussi à l'invité. Par rapport à, considérant l'aspect historique de la séparation du pouvoir vis-à-vis du fonctionnement d'un pays, moi j'aurais souhaité que les institutions puissent travailler dans une indépendance interactionnelle, c'est-à-dire qu'on puisse laisser le personnel qui travaille dans un secteur d'une manière concrète. Parce que nous constatons aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par exemple, un monsieur qui peut se retrouver aujourd'hui voté député national, mais arrivé à ce niveau-là, il va être nommé comme un ministre. Alors, au lieu de considérer l'aspect de refléter l'image de la volonté du peuple qui l'a mandaté, lors de nommer son suppléant, il va prendre son fils ou sa fille, voire aussi sa femme. C'est-à-dire, ça devient une monarchie. Donc, pour bien travailler dans ce secteur, il faudra que la volonté du peuple soit reflétée au niveau des institutions nationales comme dans l'Assemblée nationale. Du fait que les députés qu'on a élus ne travaillent pas dans l'Assemblée, ce sont les suppléants qui travaillent, alors je ne vois pas dans quel moyen que le gouvernement pourra aider le pays à aller en avant. Et surtout, ça va plutôt permettre à réchiter toujours dans les chaos que nous sommes en train de constater, vu aussi les problèmes qui se passent. Il y a les problèmes également de triomphalisme. Il y a des députés que tout le monde a vu sur les chaînes nationales, comment ils se comportent dans l'Assemblée, ce qui ne donne pas encore l'espoir pour la démocratie dans notre pays.
Bien, merci Isaac Tchoni depuis Kolwezi. Professeur Jacques Joly, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Isaac?
Non, je crois que ce que Isaac dit, tout comme ce qu'a dit le maître Lobinza, reflète le vécu et l'état d'esprit de la population vis-à-vis du Parlement. Mais il faudra d'abord douter que sur le plan international, il y a comme un affaiblissement de rôle de pouvoir législatif, aussi bien chez nous qu'ailleurs, à cause de la complexité des problèmes, à cause de la rapidité avec laquelle il faut répondre aux problèmes, la célérité donc. Il y a aussi l'émergence de plusieurs niveaux de décision, aussi bien supra-étatique avec la régionalisation, l'intégration, mais aussi au niveau infra-étatique avec d'autres niveaux de décision tels que les entités décentralisées ou autres. Mais il y a aussi un décentrement de l'action de l'État qui ne se fait pas nécessairement au sein des institutions. Il y a l'émergence de la société civile interne ou internationale qui ont pris, n'est-ce pas, ont pris de l'importance. Ceci étant, la question de la requalification du pouvoir parlementaire, le Parlement a un rôle délibératif, c'est-à-dire aujourd'hui, le Parlement, c'est un lieu où on adopte, où on discute. Et le mal du Parlement, ce n'est que l'expression de déficit de notre démocratie. Donc, vous ne pouvez pas avoir un Parlement démocratique dans un État non démocratique. Vous ne pouvez pas avoir un Parlement démocratique lorsque les citoyens eux-mêmes n'ont pas intériorisé le principe et les valeurs démocratiques. Je donne un exemple. Un député est là pour... Il doit être jugé par rapport à sa contribution à la production de lois, à sa contribution en termes de contrôle. Mais très souvent, cette rupture, c'est le député est transformé en assistant social. Lorsqu'on vous appelle, c'est pour dire... Venez enterrer, venez construire un pont, venez construire une école.
Venez, on n'a pas d'électricité depuis un mois dans notre quartier.
Voilà. Alors, vous appelez le directeur de la SNEL, il faut y arriver. Donc, il y a un déficit, je reconnais, dans l'efficacité ou l'efficience de la gouvernance parlementaire. C'est-à-dire que les parlements ne travaillent pas toujours en osmose. Il y a comme une rupture. C'est-à-dire, comme a dit Lomidja, des lois pour lesquelles la population mais de l'espoir. Ce ne sont pas ces lois-là. On vous amène parfois dans un calendrier où on parle de lois, je ne dis pas que ce sont des lois inutiles, mais nous avons par exemple la réforme de notre système électoral, la réforme du statut ou de la dimension des institutions publiques. Et cette politisation en outrance transforme le Parlement à une chambre d'enregistrement, à une caisse de résonance d'une majorité. Et la population parle du Parlement comme une institution, alors que le Parlement fonctionne en termes d'une majorité qui doit avoir une vision et qui doit avoir un schéma programmatique des textes adoptés, et une opposition qui collabore ou qui discute avec elle pour améliorer la qualité de la position législative. Mais lorsque la majorité est dans une logique mandocratique ou prédatocratique et que l'opposition est réduite à sa plus simple expression, et l'appauvrissement de la population, c'est de dire, voilà, tel député a plus d'argent, il répond, c'est les grands boss. Et tout ça, il y a une perversion. Donc, il y a un travail de fond à faire, une requalification du travail parlementaire, mais il y a aussi, de la part de la société civile, une éducation civique.
Oui. Honorable Jacques Joly, il semble que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont mis dans la tête de la population, et qu'on les appelle les papas sociaux, papas bonheur, lors des campagnes. Voilà, ils descendent et pour résoudre les problèmes sociaux, tout ça, dans les quartiers, il y a deuil, ils se présentent, ils font des actions, pour être élus. Mais après, ça reste dans la tête des gens qui ce sont les papas sociaux, papas bonheur, qui doivent résoudre les problèmes.
Vous avez parfaitement raison. Donc, il faut réqualifier les indicateurs d'évaluation des parlementaires. Je ne dis pas que la population ne sait pas qui est tel parlementaire qui travaille. Mais la perversion commence lors de la campagne, monsieur le journaliste. Vous venez, vous tenez un discours, les gens ne veulent pas. Il y a chez nous, à Bouindé, par exemple, on t'appelle Eke, c'est-à-dire c'est un oiseau qui ne donne pas des oiselets ou qui n'a pas d'œufs. Donc, il faut cracher. Et c'est ça les grands députés. Il faut construire des bâtiments à la place de l'État. Il faut faire ceci. Et lorsque vous ne le faites pas, ils disent non, ces députés-là ne servent à rien. Donc, il faut un travail de réflexion pour savoir quel est le rôle du Parlement, quel est le rôle du parti, et que comment vous pouvez, n'est-ce pas, faire des vacances parlementaires sereines. Lorsque pour aller en vacances parlementaires, vous arrivez, les gens vous disent, il faut nous construire une école. Donc, les députés prennent la place de l'État. C'est pourquoi nous voulons, vous avez vu cette fronde au sein du Parlement, pour dire, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut absolument avoir un gouvernement qui a un programme rationnel. Et là, il y a aussi, il faut l'avouer, de la part des députés, une certaine complaisance ou contemplation. On vous amène un budget qui n'est pas réaliste, où les allocations de recettes n'est pas rationnelles. On vous amène une reddition de comptes qui montre qu'il y a eu des dépassements. Il n'y a aucune sanction. Et il y a cette complaisance qui fait qu'aujourd'hui, nous partageons tous la responsabilité de cette recul de l'État, de ce développement de l'existence de l'État. Parce que les institutions et leurs animateurs, la responsabilité de la majorité. Aujourd'hui, le rapport étatique n'est plus les législatifs contre l'exécutif. C'est une majorité qui gouverne sous les contrôles de l'opposition et l'arbitrage du peuple. Donc si la majorité ne gouverne pas, ou c'est une majorité qui est inscrite dans une vision médiocratique, et bien l'opposition aussi qui est amenée dans ces débats, parce que il n'y a pas débat, on ne vous accorde pas la parole, et même si vous vous accordez la parole, ça se termine par un vote qui finalement est un vote mécanique, et ensuite la population, heureusement, on sent cet éveil-là, on sent ce travail de la société civile, qui doit arbitrer pour dire à la majorité, arrêtez, ne venez pas avec des lois scélérates.
Bien. Honorable, un instant, on va accueillir un auditeur, Mathieu Cassidy Béni. Bonjour Mathieu.
Bonjour monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie?
Oui, merci de nous avoir accordé la parole. Je pense que le sujet, c'est pertinent. Nous saluons la thématique du jour. Alors, le Parlement a son rôle qui s'inscrit dans des principales missions ou fonctions, à savoir l'élaboration des lois. Il y a aussi le contrôle du gouvernement. Alors, s'agissant de l'élaboration des lois, dans tous les États du monde, la loi est la principale origine d'un État de droit. C'est là que l'article 1er de la Constitution de la RDC aussi fait allusion à un État de droit. Alors, c'est comme ça que le législateur exprime la volonté du peuple ou de la nation par des normes allant dans le sens de fixer les orientations et les objectifs auxquels le pouvoir exécutif doit poursuivre ou bien doit faire afin de réaliser ces objectifs-là ou les orientations-là que le représentant du peuple a essayé de donner à partir de la loi. En s'agissant maintenant de la deuxième mission qui est le contrôle du gouvernement, monsieur le journaliste, vous savez, la transparence dans la gestion de la chose publique ou la transparence dans la gestion des affaires publiques impose en fait au gouvernement de rendre compte au Parlement dans lequel siège le représentant de la nation ou du peuple, parce que le député, tout comme le sénateur, attend, là je ne fais pas allusion au sénateur à vie parce que lui quand même, il n'est pas élu, et il est nation président, alors le sénateur attend, doit justifier aussi son mandat lors d'une prochaine élection auprès du souverain primaire de ce qu'il a fait pour qu'il gagne une fois de plus la confiance de ce souverain primaire afin d'être réélu pour un autre mandat. Et donc, pour la bonne consolidation des acquis démocratiques en République démocratique du Congo, moi je pense que le parlementaire doit toujours faire la volonté du peuple et non suivre les intérêts personnels ou agir à la satisfaction d'un individu ou d'une autorité morale suivant une obédience politique.
Bien, merci. Mathieu Kasside Beni. Henri-Christian Longenja, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mathieu? Votre réaction par rapport à ce que Mathieu vient de dire.
Oui, effectivement, je pense que ce n'est qu'une complémentarité que nous sommes en train de faire et que ce que Mathieu a dit est même ce que le prof venait de dire, comme nous disions que cette émission est vraiment à caractère pédagogique, je souligne qu'il est important que nos auditeurs puissent noter que le rôle sacro-saint du Parlement, c'est d'abord législatif et le contrôle. Et que nous, en tant que société civile, tout ça pour savoir qu'un Parlement est démocratique, c'est qu'il remplit les 5 critères. C'est-à-dire qu'il est représentatif, qu'il est transparent, accessible, rend des comptes et puis efficace. Donc ce sont les points essentiels que nos auditeurs doivent retenir. Alors, venant des questions législatives, il est important de savoir est-ce que notre Parlement a tout un programme en conformité avec le gouvernement. Parce que lorsqu'on a voté le programme du gouvernement qui s'exprime à travers la loi financière qui est l'expression suprême de la volonté politique, et on doit voter des lois qui doivent accompagner ces programmes. Je donne un exemple. Le gouvernement s'est dit il faut lutter contre la corruption. Mais est-ce que le Parlement se met autour d'une table? Ce sont des législations que nous devons doter le pays pour qu'on lutte contre la corruption. Et vous allez voir que il y a la loi qu'on a proposée par rapport à l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ça n'a jamais été traité. La loi d'accès à l'information qui permet à que tous citoyens puissent demander des comptes et tout ça et puis assurer la transparence. Ça n'a jamais été traité. Donc, il y a des lois qui doivent accompagner la lutte contre la corruption que le Parlement ne programme pas. C'est comme si le Parlement travaille en déphasage avec le programme des gouvernements qui sont...
Henri Christian, peut-être que le Parlement se retrouve avec beaucoup de propositions de loi et qu'il faut une certaine programmation.
Oui, effectivement. La programmation doit tenir compte de la politique qu'on veut imprimer dans les pays. Lorsque les gouvernements que vous avez investis se donnent comme priorité améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption, garantir les libertés fondamentales et tant d'autres critères ou priorités du gouvernement, les parlements doivent voir quelles sont des lois qui doivent accompagner ça pour améliorer la gouvernance, quelles sont des lois qu'on a besoin pour lutter contre la corruption, quelles sont des lois qu'on a besoin pour garantir les libertés fondamentales, quelles sont des lois qu'on a besoin. Mais nous constatons que ce n'est pas ça. Et ce qui fait qu'on prend des lois, c'est comme le prof disait, ce n'est pas que des lois qu'on programme là ne sont pas importantes, mais ce n'est pas prioritaire par rapport à l'expression ou par rapport à des priorités gouvernementales. Et du coup, ça pose un problème.
Bien, on aura...
De l'autre côté, oui. Il y avait la question de sensibilisation. Le prof a dit que nous devons, en société civile, sensibiliser la population. Moi, je pense bien que je suis d'accord qu'on puisse revoir le rôle du parlementaire ou soit les qualificatifs du parlementaire. Et c'est comme vous avez bien dit en posant la question, en disant, mais ce sont les parlementaires. Et même lorsqu'ils battent campagne, nous avons suivi la campagne, nulle part nous avons vu un parlementaire se dire, votez-moi parce qu'il y a telle chose qui manque et que cette chose-là qui manque, moi, je dois prendre une loi par rapport à ça, ou soit il y a telle loi qui existe et que cette loi-là n'est plus démocratique, je vais me battre pour que la loi, cette loi-là soit modifiée, pour que les gens comprennent. Mais on bat campagne en disant, non, votez-moi, je vais construire les ponts, votez-moi, je vais construire les centres de santé, l'électricité, comme prof a dit, on va à la SNEL, on voit les transports de la SNEL, on vient offrir aux gens, et on suit, non, c'est l'honorable et tel, et que même maintenant, nous commençons à voir les honorables qui, avant de devenir députés, ne faisaient pas des dons, mais aujourd'hui, ça devient monnaie courante. L'honorable est allé voir sa base, les a donné ceci ou cela. Alors qu'avant qu'ils ne deviennent honorables, ils ne donnaient rien. Alors tout ça, c'est le message que les honorables députés donnent face à une population très, très pauvre. Et à ce moment-là, la population oublie que le rôle du parlementaire, c'est d'abord des lois, et puis contrôler le gouvernement et ricocher, venir rendre compte de son action. Une fois, nous avions voulu lancer l'observatoire député au service du peuple, mais nous avons eu des barrières face à certains députés, parce que nous, on voulait vraiment, avec un checklist, avec les critères du rôle d'un député, nous faisons un observatoire et on suit les députés, chaque honorable par rapport à sa circonscription, et on sort à la fin de la législature un annuaire où honorable est tel. Je prends par exemple mon vieux honorable, Lely de Boende, ses interventions, il a fait combien de mentions.
Donc on instaure une sorte d'évaluation des députés.
Évaluation et le suivi vraiment de plus près, et à la fin on publie. Et lorsqu'on va publier, on voulait faire ça en 2011, mais les gens nous ont dit, attention, on va vous tuer parce que ça sera un outil de propagande, parce qu'il y aura des députés qui auront des zéros. Ceux qui n'attendent qu'on puisse leur donner un mot d'ordre par les autorités morales de voter oui ou de voter non, et ils auront des zéros parce qu'ils ne font absolument rien. Et à ce moment-là, ça sera un outil campagne pour les autres. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Avoir un Parlement efficace, avoir un député réellement au service du peuple et qui transmet en termes de loi, en termes de réglementation, la volonté du peuple et qui contrôle le gouvernement par rapport à ce que le gouvernement a promis pour changer la vie au quotidien de la population.
Bien. Henri Christian, je reviens à vous. Le temps d'accorder la parole à Willy Moubobo, député honoraire. Il est à Idiofa. Honorable Willy Moubobo, bonjour.
Bonjour, Jody Kanchama.
Bienvenue dans cette émission. Alors, d'après vous, quel est le rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie?
Le rôle du Parlement, c'est de légiférer les lois, voter les lois, contrôler l'action gouvernementale, et aussi recevoir les doléances de la base pour ramener ça au niveau de l'Assemblée nationale comme au niveau du Sénat.
Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parlement congolais, dans le contexte actuel, joue réellement son rôle?
Dans le contexte actuel, on ne peut pas dire qu'il joue son rôle, parce que la plupart, ça on doit se le dire, la plupart des députés depuis 2011, on n'a pas eu plus de 50% de députés réellement élus par le peuple. C'est en 2006, il y avait une réussite totale où les députés étaient responsables. D'ailleurs, par preuve, vous allez constater que le député de 2006 ou la législature de 2006, il y a des fonctionnaires comme des travailleurs qui quittaient le boulot pour aller suivre les plénières. C'est par cette façon qu'on peut comprendre que ceux de 2006 étaient réellement élus et les débats étaient ouverts et tout était démocratique. Et depuis que la fameuse majorité présidentielle ou l'AMP avait choisi de choisir ou de désigner le député, comme à l'époque d'Imper, tout a été capoté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne jouent pas le même rôle. Le même rôle n'est pas joué pour la simple raison qu'ils sont nommés. De 2018, la même aimant. Et pour garder, c'était juste pour garder la primature. Et là, ils sont à la solde plutôt de l'exécutif. Ils ne sont pas libres.
Parce qu'ils n'ont pas été élus, mais nommés au lieu d'être élus.
Tout à fait. Ils ont été nommés et élus. Et la responsabilité, moi je crois que au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont provoqué ça et ceux qui ont réalisé ça doivent se demander, est-ce que nous sommes vraiment une république démocratique? Parce que le nom là, je reviens surtout sur ce nom là que les ancêtres de l'indépendance ont donné, République démocratique du Congo. Alors, la démocratie signifie que les autorités doivent être élus par la base ou par la population. Alors, lorsque le jeu ne se fait pas, il n'y a pas de franc jeu, ça devient une république dictatoriale du Congo. Et là, je m'oppose farouchement. Bien, je trouve qu'on insulte ceux qui sont morts à cause de l'indépendance.
Bien, honorable Willy, Henri-Christian Longenja a dit tout à l'heure qu'on devrait instaurer un système d'évaluation des parlementaires, qu'on sache tel a participé, il y a eu autant d'interventions pertinentes, il a contribué à la production de telle ou telle autre loi, un système d'évaluation. Pensez-vous que ce sera une bonne idée? Honorable Willy? Voilà, il n'est plus là. Honorable Jacques Joly, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'Henri-Christian Longenja?
Oui, mais c'est pas mal d'avoir un observatoire d'élus. Pour autant qu'on fait un travail objectif. Parce que très souvent, la société civile est composée très souvent de ceux qui ont échoué aux élections. Et à la prochaine élection, ils sont eux-mêmes candidats. Je voudrais pas dire j'ai vu quasiment mon maître Longueda qui est patenté, mais effectivement cette transhumance société civile et ce qui fait que comment ceux qui sont à la fois concurrents peuvent devenir, n'est-ce pas, évaluateurs, ce n'est pas mal hein, pour tout et pour tout. Il y a la question de la communication. Vous savez, très souvent les plénières, on en se bat toujours pour qu'elle soit couverte par la TNC. À l'intérieur, déjà ils n'ont pas du courant, le taux d'accès à l'internet ou à la télévision est faible. Donc cette population, pour nous les élus ruraux, elle ne sait même pas ce qui se passe. Donc les problèmes de l'élection.
Et puis il a dit tout à l'heure que même sur les sites du Parlement, il n'y a pas un forum où on peut interagir avec les avec la population.
Nous avons un système qui est plus ou moins lui-même constitué, qu'il faut déconstituer pour rendre la fluidité de la communication entre le sommet et la base. J'ai entendu un certain moment Maître Longueda dire la politique parlementaire. Non. Aujourd'hui, dans l'analyse du fonctionnement des institutions, les centres de gravité d'impulsion n'est plus au Parlement. Le Parlement devient un organe d'accompagnement dans toutes les démocraties. Donc, la dynamique d'impulsion, aujourd'hui, vient de l'exécutif. Et même si vous analysez dans le monde entier...
Oui, honorable Jacques Joly. Il n'est plus là, il y a peut-être des soucis au niveau de la liaison téléphonique. Bien, Henri-Christian Longuenja, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que l'honorable disait tout à l'heure?
Oui, bon, je peux dire quelque chose à travers l'eau, il s'est limité. Je pense bien que si la dynamique aujourd'hui, le rôle du le Parlement, c'est comme organe d'accompagnement, mais pas... d'action, c'est juste pour accompagner les gouvernements. Mais j'estime aussi qu'avec le rôle du Parlement, celui du contrôle, le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement dans notre démocratie. Donc, l'échec du gouvernement, c'est l'échec aussi du Parlement, parce que le gouvernement vient du Parlement. C'est le Parlement, parce qu'on est majoritaire, qu'on a le droit de choisir le Premier ministre et que c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, pour citer que cette Chambre, qui investit le gouvernement, qui s'approprie le programme. Alors cela voudrait dire que si les parlementaires, bien qu'ils sont là pour accompagner, justement parce que les parlementaires ont fait sienne, le programme est présenté par le gouvernement, ils ont voté et que le gouvernement doit exécuter, mais ils ne doivent pas se limiter à accompagner, mais ils doivent contrôler pour voir si réellement ce programme est appliqué. Et c'est ça le problème. Malheureusement, chez nous, on a un parlement où la majorité n'est pas au service du peuple, et la majorité, là, c'est pour se soutenir par rapport au pouvoir, et qu'aucune fois, on a vu une interpellation des ministres qui tombent avec des évidences ainsi de suite. Même si on sait que les choses vont mal, on ne peut pas discuter. On sait que les 100 jours, il y a un ministre des travaux, des infrastructures et travaux publics qui est là et que les choses ne marchent pas. On ne sait pas l'interpeller, le faire tomber. Tout ça parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. On dit non, le Parlement là, le gouvernement là, c'est pour nous. Et que nous devons les soutenir jusqu'à la fin de notre législature. Bon, nous pensons qu'avec un nouveau vent qui arrive, avec le nouveau bureau qu'on espère avoir demain, on aura vraiment une nouvelle dynamique, parce que dans ces pays, on nous a dit qu'on veut faire du palais du peuple le grand tam-tam de la démocratie, à l'époque de l'honorable Minako, mais on n'a pas senti ce tam-tam de la démocratie. Donc, il est important qu'aujourd'hui, les députés prennent conscience. Et lorsque nous insistons sur l'Observatoire député au service du peuple, il y a les standards, même au niveau international, qu'on observe, et la grille d'évaluation doit être objective pour que tout le monde puisse savoir que je suis suivi par mes élus. Je prends par exemple, dans certaines circonscriptions, qu'il est député, mais on ne l'a jamais vu même intervenir, ne serait-ce qu'une seule fois, pour
d'accord.
parler de sa circonscription.
D'accord. Henri-Christian Longuenja. D'accord, merci beaucoup Harry, on n'a plus beaucoup de temps, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Merci, je rappelle que vous êtes expert en éducation civique et secrétaire exécutif du Collectif 24, une structure qui lutte pour le droit d'accès à l'information. Nous disons également à l'honorable Jacques...
Je vous porte cette loi-là à cette session avec le nouveau bureau pour qu'on ait la loi d'accès à l'information, ce qui va permettre à la population de jouer son rôle vraiment du souverain primaire et ça sera l'indice vraiment d'un parlement démocratique.
Merci Henri Christian. Nous disons également merci à l'honorable Jacques Joly. Désolé, on n'a pas pu conclure avec lui pour quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Merci honorable Jacques Joly. Et à la prochaine, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination au micro. Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.